Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Salut à tous, bonjour, bienvenue les curieux dans votre cabinet du week-end, votre cabinet d'histoire. Vous allez bien Thomas?
Ça
oui,
va
d'histoire.
Très bien. Bienvenue.
Dangereux ce mot cabinet quand même.
Bienvenue à tous. Vous allez en pleine forme, Sidonie.
Ah bah oui, hein, vous n'avez pas remarqué que c'est tous les jours comme ça?
Oui, c'est pas faux. Bon, alors, au programme de cette curiosité dominicale.
La vie sauvage à Paris.
C'est quoi ça déjà comme oiseau? Ah oui, c'est une oie.
Ah oui, j'avais à peine reconnu, ça fait du bruit une oie quand même. Hein.
Oui.
Eh bien, des espèces comme ça, d'animaux sauvages, il y en a plus de 3000 dans la capitale. Vous allez être étonnés, des oies cendrées comme on vient d'entendre, mais aussi des faucons, des renards, des ragondins, des vers à soie et des poissons géants.
Tout de suite, oui, le rythme a l'air bon. Allez, on se fait un check-up grâce à la télémédecine.
RTL.
Bonjour madame, je suis médecin neurologue dans un hôpital autre que le vôtre.
Je vous vois parfaitement grâce à la caméra qui est devant vous. Là, je pense que vous pouvez me voir sur l'écran d'ordinateur à votre gauche.
La curiosité est un vilain défaut.
La télémédecine, c'est un outil, et comme tout outil informatique, elle vient s'appliquer sur des hommes qui sont reliés entre eux grâce à la télémédecine. Le malade est examiné par un neurologue distant au moyen d'une caméra qui lui permet d'échanger avec le patient, de le questionner, de l'examiner.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Connaissez-vous la télémédecine? Certains d'entre vous ont des applications qui permettent de vérifier le poids, le nombre de pas quotidiens ou la qualité du sommeil. La télémédecine, eh bien, c'est un cran au-dessus, plus sérieux, plus personnalisé. On vous raconte les prémices de cette révolution avec nos confrères du Parisien Magazine aujourd'hui en France. C'est en partenariat avec RTL. Martine Pérez, vous êtes journaliste et médecin de formation. Alors, vous aviez envie de nous donner la définition de ce nouveau mot dans notre vocabulaire, télémédecine.
Alors, la télémédecine, ce sont de nouveaux outils qui permettent de transporter le médecin de manière virtuelle jusqu'au chevet du patient, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est avant tout une révolution technologique. On a vu que la technologie de la télécommunication a bouleversé tout le champ de notre vie quotidienne, de l'économie, des transports, du travail. Eh bien, la médecine s'est emparée aussi de ces outils de communication. Pour le meilleur, à mon avis, pour le meilleur des patients. Vous savez, en France, on a des déserts médicaux, il y a des endroits où il n'y a pas de médecin, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui sont malades chez eux à domicile, qui ne peuvent pas bouger,
seuls.
Et qui sont seuls. Il y a des gens qu'on ne peut pas transporter parce qu'ils sont autistes ou parce qu'ils ont des troubles psychologiques. Eh bien là, on fait voyager l'information entre le malade.
Mais il y a un lieu où on peut aller? Il y a une station médicale, comme disait Sidonie tout à l'heure?
Alors, il y a beaucoup, il y a 350 expérimentations actuellement sur la télémédecine. C'est un champ en friche qui va à peu près dans tous les sens. Il y a de la téléradiologie, de la téléconsultation, du télédiagnostic, de la télécardiologie, de la téléneurologie. Donc, vous voyez, du télé-AVC, il y a beaucoup de choses. Et la fameuse télécabine que vous évoquiez.
Alors que vous avez testé Martine Pérez, vous êtes allée à Paris. Elle est où cette station médicale, cette cabine exactement?
Alors, c'est un médecin qui s'appelle Monsieur Bodino, Franck Bodino, qui a inventé ce concept il y a quelques années. Alors, c'est une petite cabine, 2 mètres carrés à peu près, ça ressemble à une Smart.
Mais elle est où, dans un hôpital?
Aujourd'hui, elle commence à être implantée. Elle est implantée dans des mutuelles étudiantes pour l'instant. Mmh. La SMEREP et la LMDE, pardon. Elle est aussi implantée dans des casernes de pompiers. On en est au balbutiement. Elle commence à être commercialisée. Elle a beaucoup de succès à l'étranger. Et cette petite cabine, effectivement, je l'ai testée et je l'ai trouvée assez charmante.
Alors, donc ça se passe comment? Vous arrivez? Oui, déjà, c'est pas très grand, j'imagine.
Alors,
c'est qui vous accueille?
Alors, il y a une assistante qui vous accueille. Alors, elle peut être utilisée de deux manières. Soit c'est du télé-bilan. C'est utilisé dans les mutuelles actuelles. C'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous occupez de votre santé, ça on le sait. Eh bien, les mutuelles étudiantes ont acheté cette télécabine. Donc, les étudiants arrivent et font un bilan de santé gratuit pour eux et financé par la mutuelle.
Mais comment ça marche concrètement? Parce que c'est un médecin qui parle, moi, à travers un écran. C'est quoi? Parce que moi, j'y connais rien.
Dans le cadre, alors, vous rentrez dans la petite cabine. Elle est très propre, très nickel, très jolie. C'est pas du tout anxiogène. Il y a une assistante qui vous indique. Vous appuyez sur un bouton pour commencer. Vous mettez votre carte vitale. Vous avez un numéro de code qui s'affiche. Donc, tout est informatisé et le secret médical est respecté. Et puis, on vous dit, là, il y a une voix à l'intérieur, ou bien le médecin ou l'assistante qui est à l'extérieur vous dit mettez votre bras dans l'appareil à tension, posez vos doigts sur le capteur qui permet de mesurer la saturation d'oxygène de votre doigt, mettez l'otoscope dans vos oreilles pour qu'on fasse des clichés de vos oreilles, mettez le stéthoscope aussi sur votre cœur pour que, éventuellement, s'il y a un médecin au bout, on puisse l'entendre, etc. etc.
Mais on est tout seul, hein, j'ai bien compris.
On est
dans la cabine,
on est tout seul.
L'assistant ou le médecin, il peut être à des milliers de kilomètres s'il faut. Quoi.
Bien sûr, exactement. Ouais.
Mais c'est une voix enregistrée ou c'est des vraies personnes qui nous parlent ?
Non, c'est, alors voilà. Donc, dans le cadre de la télécabine telle qu'elle est installée dans les mutuelles, les étudiants font des bilans de santé. Ça leur permet de voir s'ils sont en bonne ou en meilleure santé, en mauvaise santé, pardon. Et donc, il y a un bilan qui est édité et avec lequel ils peuvent aller voir leur médecin s'il est signalé qu'il y a un problème. L'autre utilisation de la télécabine, c'est pour les déserts médicaux. Une caserne de pompiers, une municipalité, une pharmacie installent la télécabine dans un endroit où il n'y a pas de médecin. Il y a un pool de médecins formé par la société H4D qui commercialise cette cabine et qui rentre en contact avec le patient de la télécabine.
Bonjour, donc on peut dialoguer.
Comment allez-vous ? Je suis à 500 km de vous, mais ne vous inquiétez pas, je suis très sensible à tout ce qui vous arrive.
J'aime quand vous me parlez comme ça,
oui,
ça me rassure.
Surtout, vous êtes médecin, donc on se dit, ouais, chouette, on est pris en
main. Tout va très bien.
Tout va très bien, bien sûr, il faut commencer par là. Ça veut dire que ce médecin, il peut vraiment faire un diagnostic sans toucher, sans palper, sans écouter ?
Déjà, on peut faire pas mal de choses à distance. Déjà, il parle. Donc, il va rentrer en communication. Bonjour, pourquoi vous êtes là ? De quoi vous plaignez-vous ? Quels sont vos symptômes ? Ensuite, il va dire au patient, prenez votre tension artérielle. Mettez votre main dans la machine qui permettra de mesurer votre fréquence cardiaque. Posez le stéthoscope là et là, ça y est, j'entends les bruits, le cœur est normal. Ouais. Maintenant, mettez les électrodes pour faire l'électrocardiogramme. Ça y est, je l'ai vu, il est normal. Mettez votre doigt pour faire un dosage de glycémie rapide, etc. etc.
Montrez-moi votre gorge et je vous dis quel type d'angine vous avez.
Voilà, il y a un petit otoscope, il y a un petit appareil que vous glissez dans l'oreille et le médecin à distance peut examiner votre oreille parce qu'il y a des capteurs qui permettent de transporter l'image à distance. Donc c'est quand même, cette petite cabine, moi, elle m'a plu, puis elle est assez réconfortante, elle n'est pas anxiogène.
Oui, mais forcément, à toute révolution, ces obstacles. Et le recrutement des médecins n'est pas simple, on va vous expliquer pourquoi. Et vous allez découvrir aussi dans un instant que la télémédecine peut sauver des vies.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On a la curiosité de découvrir la télémédecine avec Martine Pérez, qui est journaliste, médecin de formation. Et c'est dans le cadre d'un article publié dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France. C'est en partenariat avec RTL. Vous avez donc testé ce nouveau mode de consultation, Martine Pérez, dans une cabine guidée par un médecin à distance. Donc vous nous avez dit que ça peut être utile, par exemple, pour les étudiants. Ça peut être utile pour lutter contre les déserts médicaux. Est-ce que ça peut permettre aussi de faciliter la vie de ceux qui souffrent de maladies chroniques ? Et si oui, comment ?
Alors, peut-être pas la télécabine à proprement parler, mais la télémédecine est aujourd'hui une des voies possibles pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques. Aujourd'hui, on vit longtemps, on a une espérance de vie qui s'est vraiment prolongée, mais la rançon de tout ça, c'est que beaucoup de gens ont des maladies chroniques, du diabète, du cholestérol, des insuffisances cardiaques. Mmh. Et donc, on ne peut pas amener systématiquement tous les patients atteints de maladies chroniques à l'hôpital à chaque fois qu'ils en ont besoin.
Et là, parce que c'est fatigant déjà.
D'abord,
un des
principaux postes de l'assurance maladie, c'est le transport sanitaire. Et aujourd'hui, il y a une expérience qui a été menée sur l'insuffisance cardiaque. Les malades qui ont des insuffisances cardiaques, leur cœur ne marche plus très bien. Et donc, ils sont essoufflés, ils font des crises d'étouffement, on les hospitalise, ils ont les jambes qui gonflent parce que leur cœur ne pompe plus assez bien le sang. Et donc, ça fait des hospitalisations à répétition.
Et alors, la télémédecine, on l'utilise comment dans ce cas-là ?
Eh bien, ils ont chez eux des capteurs qui permettent, alors il y a une expérience qui a été faite en France, je ne peux plus vous dire où exactement, à Strasbourg, avec le professeur Emmanuel Andrès. Et donc les patients sont chez eux, et ils sont reliés aux infirmières du service du centre hospitalier universitaire. Et tous les jours, les capteurs prennent à distance le poids, l'essoufflement, la tension artérielle, etc., etc. Le poids, ça permet de mesurer la rétention d'eau. Et puis quand les marqueurs sont mauvais, les infirmières appellent le patient, font une téléconsultation avec le cardiologue, disent « il faut que vous augmentiez votre dose de diurétique, il faut que vous arrêtiez de manger du sel, il faut etc. etc. » Et donc on les suit à distance. Il y a une évaluation.
C'est presque, pardon, je vous interromps, c'est presque un suivi quotidien ce que vous nous décrivez.
Presque, oui, c'est presque un
donc
suivi quotidien.
C'est un progrès pour ces malades.
C'est un progrès pour ces malades. Et là, il y a eu des chiffres qui ont été donnés récemment qui montrent que ces projets permettent de réduire le nombre d'hospitalisations. Dans ce projet, les patients sont hospitalisés 6 à 8 jours par an, alors que quand ils ne bénéficient pas du programme, ils sont hospitalisés deux fois plus souvent. Et puis, vous savez, quand on est âgé, ce n'est pas très agréable d'être hospitalisé.
Martine Pérez, dans votre article du Parisien Magazine Aujourd'hui en France, vous dites aussi que cette télémédecine permet de sauver des vies, notamment en cas d'AVC. Pourquoi et comment ça fonctionne ?
Alors ça, c'est une autre application de la télémédecine. L'idée, c'est qu'on amène l'expertise la plus pointue et la plus sophistiquée dans les hôpitaux les plus reculés qui n'en bénéficient pas. Alors c'est quoi ? Vous avez un patient qui fait un AVC dans un tout petit village, on l'amène dans l'hôpital général, il y a un urgentiste qui ne connaît pas grand-chose, enfin qui connaît beaucoup de choses, mais qui est extrêmement généraliste. Je ne veux pas me mettre à dos les urgentistes qui font un super boulot. Et donc,
mais ils ne peuvent pas être... spécialiste de tout.
Et à l'hôpital de Besançon, qui a commencé, qui a initié ce programme, c'est le professeur Thierry Moulin, qui est d'ailleurs maintenant président de l'Association française de télémédecine, de la Société française de télémédecine, eh bien, il y a un pôle de neurologues de garde 24 heures sur 24. Le patient arrive dans un hôpital général, il a des signes d'accident vasculaire cérébral, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on le transporte, on va perdre du temps. Or, vous savez aujourd'hui qu'on peut sauver des gens atteint d'accident vasculaire cérébral, on peut réduire les handicaps si on agit à temps. Si vous agissez en moins de 4h30, eh bien, vous réduisez le risque de handicap. Vous savez, il y a des hémiplégies. Quand c'est d'un côté, on peut avoir une hémiplégie du côté droit, du côté gauche, des troubles du langage. Mais si on arrive à enlever le caillot qui bouche l'artère du cerveau à temps, eh bien...
Et donc, le spécialiste qui est à Grenoble...
Ou à Besançon,
qu'est-ce qu'il fait exactement ? Parce qu'il n'est pas physiquement, on l'a bien compris, dans cet hôpital général que vous décrivez. Il y a un patient soupçon d'AVC. Quels outils de télémédecine utilise-t-il ?
Alors d'abord, le patient arrive, on fait immédiatement une IRM ou un scanner pour voir ce qu'il a dans le cerveau. Ensuite, on prend sa tension, on fait un électrocardiogramme, on fait un certain nombre un bilan. Et ce bilan, une fois que l'urgentiste l'a fait, normalement c'est une urgence, donc dans l'heure qui vient, ce bilan doit être fait et il est mis en contact avec le spécialiste en pathologie neurovasculaire du CHU de Besançon qui est capable de dire, on envoie les images, il peut parler au malade, il regarde les résultats d'examen et il dit oui, ce malade doit bénéficier de cette fameuse thrombolyse qui vise à dissoudre le caillot dans le cerveau. Oui, ce malade, peut-être que ça vaut le coup de le transférer parce qu'on va lui enlever avec une petite pince le caillot qui est dans le cerveau.
Donc ça permet un travail collectif, on raccourcit le temps et on sauve des vies.
On raccourcit le temps et on amène la meilleure expertise au lit du malade qui aurait pu ne jamais en bénéficier sans la télémédecine.
Je disais tout à l'heure que cette télémédecine, donc c'est une révolution et qu'elle a du mal quand même à se développer. Qu'est-ce qui freine ?
Il y a beaucoup de choses qui freinent. Dans les pays du Nord, par exemple, dans le Nord de l'Europe, eh bien, la télémédecine, le patient, c'est un e-patient. Il est à la fois connecté, il a un dossier sur Internet, il rentre en contact facilement avec ses médecins. Dans les pays du Sud, au Portugal ou en Espagne, on a beaucoup aussi développé la télémédecine en prévention.
Alors qu'est-ce qui bloque en France ?
Ben, en France, on a un système d'assurance maladie extrêmement performant, quand même, dont bénéficient tous les Français. Le seul problème, c'est comment on finance les actes de télémédecine.
Ça peut être remboursé comme le médecin traitant ?
Et ben, pour l'instant,
avec la carte vitale,
l'imagine est pareil.
D'accord.
Donc, il y a des discussions, il y a des négociations. C'est hyper lourd, vous savez, donc c'est très compliqué de rembourser ça. Et d'ailleurs, la Société française de télémédecine vient de signer un partenariat hier, justement, avec la Fédération hospitalière de France pour mettre tout en œuvre, pour développer cette télémédecine. Parce que vraiment, je pense qu'on peut amener au lit du patient le meilleur du médecin et le meilleur expert. Et ça, c'est fondamental pour qu'il y ait une qualité des soins équivalente sur tout le territoire.
Le message est bien passé.
Merci.
Votre article passionnant est à lire dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France. Au revoir.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.